Horizon Tech by ENI, le podcast de ceux qui font la tech d'aujourd'hui et feront la tech de demain. Si vous aimez la tech, vous aimerez les histoires de nos invités. Qu'ils soient chefs d'entreprise, étudiants, formateurs ou auteurs, ce podcast vous permettra de découvrir pourquoi ils et elles sont devenus des acteurs de la tech. Chaque mardi, un nouvel épisode sera disponible sur votre plateforme d'écoute préférée, Apple Podcast, Spotify ou Deezer. Ce podcast est aussi le vôtre, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos envies et à le partager sur vos réseaux sociaux. Horizon Tech by ENI. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Horizon Tech by ENI. Mon invité, Lucie Poirot. Bonsoir Lucie.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Alors Lucie, tu es RSSI du groupe Atlantique. Est-ce que pour commencer, tu peux nous expliquer exactement ce que veut dire RSSI et quelles sont tes principales missions?
Oui, donc RSSI pour responsable de la sécurité des systèmes d'information. Aujourd'hui, donc, en ayant ce poste au sein du groupe Atlantique, les grandes missions vont être de définir des politiques, des stratégies de sécurité pour le système d'information de gestion, puisque moi, je n'agis pas sur le système industriel. On va également avoir différents projets autour du poste de travail, de l'authentification, s'assurer que nos différents sites web soient bien sécurisés. Et bien sûr, on agit aussi sur la sécurité des données de nos clients qui vont venir acheter des produits au sein de nos marques.
Ça veut dire que tu interviens à la fois sur l'infrastructure, c'est-à-dire tout ce qui est équipement que vous allez acheter. Alors, il y a les équipements classiques qui peuvent être des ordinateurs, des téléphones, etc. Mais il y a aussi tout le système informatique qui permet de faire transiter les données, que ce soit par câble ou par Wi-Fi. Il y a également aussi tout ce qui est utilisation des logiciels. Tu l'as dit, soit à destination de l'externe comme un site web peut l'être, mais aussi en interne. Ça va jusqu'à la stratégie des mots de passe sur combien de fois par an peut-être on met en place un nouveau mot de passe et on demande aux utilisateurs de changer de mot de passe. Sur aussi de la sensibilisation et de la formation peut-être des personnels du groupe Atlantique à comment, c'est quoi la cybersécurité et quelles sont les nouvelles formes de menaces. Il y a tout ça qui englobe ton rôle de RSSI.
Oui, effectivement. je n'ai pas parlé au début, mais oui, la sensibilisation, c'est vraiment une part importante de mes missions, de mon métier, notamment depuis la cyberattaque que le groupe a subie en 2020, donc on pourra en reparler un peu plus tard. Mais tous les ans, pour le mois de la cyber, donc qui se passe au mois d'octobre, cet événement européen qui existe depuis 2012, mon rôle, ça va être d'animer en fait ce mois de la cyber pour l'ensemble des collaborateurs du groupe, pour pouvoir promouvoir les règles de cybersécurité qu'ils peuvent appliquer au quotidien en travaillant sur leur poste de travail ou en étant aussi en déplacement. Et depuis donc l'été dernier, effectivement, la partie formation, elle est aussi importante. On ne peut pas que sensibiliser de manière ponctuelle. Donc, on a acheté une formation sur étagère qu'on propose à nos collaborateurs sur notre espace de formation digitalisée, donc qui est accessible depuis juin dernier, comme je disais. Elle dure à peu près une heure. Elle est disponible en français et en anglais. Et puis voilà, donc j'essaye d'initier mes collaborateurs à la suivre. Elle n'est pas obligatoire, mais en tout cas, on les incite vraiment lorsqu'ils rentrent au sein du groupe de la suivre pour partir avec toutes les bonnes pratiques, les bonnes bases, et ainsi participer à l'amélioration du niveau de sécurité du groupe.
Tu en as parlé, il y a eu une cyberattaque au sein du groupe Atlantique, on pourra en reparler, mais il n'y a pas que ça aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est hyper connectés. Il y a les téléphones, bien sûr, qui ont une puissance phénoménale par rapport aux ordinateurs qu'on pouvait y avoir il y a 20 ans. Il y a aussi les montres connectées, il y a tout un tas de périphériques. Même aujourd'hui, moi, par exemple, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup. Dans le train, je travaille. C'est vrai qu'il y a ne serait-ce que des filtres qui permettent de réduire le champ de vision parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est vrai que prendre un tableau Excel en photo ou voir comment vous tapez un mot de passe, tout de suite, demain, ça peut être une source, une porte d'entrée qui s'ouvre pour des personnes malveillantes. Alors, ça peut être, sans parler de cyberattaque, ça peut être juste le vol de fichiers, le vol de données qui sont sensibles pour une organisation et qui peuvent mettre à mal une entreprise sur certains marchés. Tout ça, aujourd'hui, tu dis que tu as mis en place une formation, il y a le mois de la cybersécurité, de la sécurité. Tout ça, tu sens que quand même, le personnel est sensible à ça maintenant et il a envie d'en savoir un petit peu plus. C'est quelque chose, c'est une préoccupation pour eux qui est vraiment là.
Alors, pas pour tout le monde. Pour la direction générale, oui, c'est une préoccupation depuis la cyberattaque. Pour les collaborateurs, bah, tout dépend s'ils étaient là avant la cyberattaque ou s'ils sont arrivés après. On a vraiment des niveaux de sensibilisation très, très différents selon les régions, selon les pays. Mais on va vraiment essayer que chaque collaborateur, à l'instant T où il travaille pour le groupe, ait les minimums de base pour pouvoir oui, travailler dans un environnement sécurisé, qu'il soit en déplacement, au travail, à la maison ou ailleurs, juste avec un téléphone ou.
On le voit, les cyberattaques sont de plus en plus présentes. Dans les journaux, on entend parler de cyberattaques sur des lieux sensibles comme les hôpitaux. On l'entend aussi sur, par exemple, des organismes publics comme la sécurité sociale, etc. Toi, tu l'as vécu de l'intérieur. Comment ça se passe? Comment vous avez découvert que vous aviez été cyberattaqué? C'est quoi la réaction qu'on a quand on se trouve face à ça, en tant que responsable de... Alors, à l'époque, tu n'étais pas responsable de la sécurité, mais tu étais en plein dedans, hein, puisque tu as suivi un cursus où tu es une experte en sécurité digitale, c'est ton niveau le plus haut. Comment ça vous tombe dessus et c'est quoi la première réaction?
La surprise, quand même. Alors, donc, si on revient, voilà, ce mardi 1er décembre, hein, je pense que je m'en rappellerai quand même quelques temps. Donc, voilà, mardi après-midi, bon, la journée commençait plutôt bien, hein, rien de d'anormal, pas de signaux faibles, jusqu'à ce que notre système de supervision, donc qui permet de superviser l'ensemble des systèmes du groupe Atlantique, commence un petit peu à remonter des alertes. Pas forcément critiques, mais en tout cas. Voilà, sur un ou deux sites, il y avait des équipements qui étaient plus bien reliés ou en tout cas qui n'étaient pas opérationnels à 100%. Donc, on pouvait penser à une boucle réseau. Donc, les équipes locales techniques ont essayé de chercher cette boucle réseau dans les salles de réunion, voilà, au fin fond de l'usine. Pas de boucle réseau, donc bon, assez bizarre. L'antivirus, donc en milieu d'après-midi, bah, commence finalement aussi à repérer. Des éléments suspicieux, pour ne pas dire malveillants, mais en tout cas suspicieux sur voilà, quelques postes de travail à différents endroits du système d'information, donc aussi bien en France comme à l'étranger. Pareil, on ne comprend pas trop. Bon, ça peut arriver, hein, effectivement, on a déjà eu auparavant des petits incidents cyber, donc ce n'est pas quelque chose de méconnu. Bon, voilà, ça reste comme ça. La fin d'après-midi, elle passe, les équipes rentrent chez elles. Et là, finalement, on n'a plus d'accès VPN, on commence à se dire qu'on n'a plus accès à nos systèmes. Donc là, c'est vraiment bizarre et vraiment anormal. Donc les équipes, elles reviennent sur site. Et là, en fait, bah, sur les postes de travail qui étaient connectés la journée, et finalement, ont eu un cycle de chiffrement par le ransomware, on a retrouvé bah, finalement des fichiers qui indiquaient bah, voilà, que les postes et les données avaient été chiffrés. Et donc là, on a compris que bah, finalement, oui, c'était pas juste un petit virus. Là, on était sûrement en pleine cyberattaque. Donc, on a commencé par couper l'accès bah, à Internet pour essayer en tout cas de contenir, on va dire, l'alerte ou l'incident chez nous. Et puis, bah, petit à petit, voilà, on a sauvegardé. Enfin, on a sauvegardé. On a mis de côté les sauvegardes pour justement pouvoir les réutiliser si besoin. Et puis, bah, voilà, rapidement, on s'est quand même rendu compte que bah, l'ensemble du système était vraiment touché, impacté. Et les équipes vont rester une bonne partie de la nuit, voire toute la nuit réveillées pour essayer de comprendre tous les différents morceaux qui ont été touchés, séparer les usines distantes du cœur de réseau pour aussi les mettre de côté, même si elles ont déjà été touchées. Mais en tout cas, on va essayer de quand même limiter cette propagation. Et puis ben voilà, puis là on se rend compte finalement c'est un peu quand même le choc, on s'y attendait pas, même si voilà on pouvait quand même se dire avec ce qu'on pouvait voir dans l'actualité même en 2020 hein, qu'il y avait quand même déjà pas mal de cyberattaques et la question c'était plutôt bah quand est-ce que ça va nous tomber dessus nous? Et ben là ça y est c'était le 1er décembre, donc ouais les premières heures elles sont un peu compliquées, il faut analyser, il faut investiguer, faut essayer de comprendre. Ou couper un peu la chic de l'attaquant pour éradiquer ou en tout cas stopper la contamination sur les autres périphériques.
Parce que là, à ce moment-là, on pense bien sûr tout de suite à tout ce qui est système informatique, avec les données des clients, tout ça, mais je pense que la production est majoritairement automatisée. Ça veut dire qu'on coupe aussi toute la production de toutes les usines et il n'y a plus rien qui sort. En fait, le groupe Atlantique, il est à l'arrêt.
Il est à l'arrêt, complètement, oui, c'est ça. Pendant plusieurs jours, on va être à l'arrêt. Et donc, au sein des usines, bah voilà, pareil, petit à petit, ils vont essayer de reprendre quand même un service dégradés, donc avec des fichiers Excel. On va essayer quand même de produire ou d'expédier selon ce qu'on peut faire et selon comment on est impacté. Parce qu'il y a vraiment des usines quand même qui n'ont pas les mêmes niveaux de, comment dire, elles ne sont pas formatisées de la même façon. Et donc forcément, voilà, elles ne vont pas toutes réagir de la même façon, elles n'auront pas toutes le même mode dégradé à mettre en place. Donc après, ce sera vraiment chaque usine, dans chaque service, qui vont devoir mettre en place leur propre méthode pour essayer quand même de soit reprendre la production, soit au moins d'expédier des produits à nos clients, parce qu'on est quand même en plein hiver. Et le produit, on va dire, phare en plein hiver, hein, c'est quand même le chauffage. Donc on va essayer de faire repartir cette usine, en tout cas en premier, pour qu'on puisse livrer nos clients et puis leur apporter tout le confort thermique qu'on sait faire depuis des années, au moins pour cette période.
Et quand on voit qu'on est cyberattaqué, ça y est, on sait que c'est ça, c'est pas un virus, c'est pas juste une boucle réseau comme tu l'as expliqué. Le premier pas, c'est quoi? C'est trouver par où ils sont rentrés pour comprendre ce qu'ils ont pu faire, à quoi ils ont eu accès, pour après mettre en place des pare-feux ou essayer de se dire, tiens, s'ils ont eu accès à ça, ça veut dire qu'ils ont pu toucher ça, ça et ça, mais cette partie-là, peut-être, elle n'est pas touchée, comme ça, on peut la remettre en route. C'est quoi cette stratégie? Je suppose que ça doit bouillonner de partout. Comment vous avez mis en place votre stratégie pour essayer de limiter au maximum et puis après de réparer ce qui était réparable?
Alors, je pense qu'on s'est vraiment isolé. On a vraiment coupé tous les liens. On a coupé l'accès à Internet. Personne ne pouvait rentrer dans notre système. De toute façon, l'ensemble de nos machines virtuelles, donc qui étaient hébergées sur nos hyperviseurs, étaient chiffrées. Donc finalement, rien n'était vraiment accessible. Hein. Tous les services, l'Active Directory, les serveurs DNS, tout ça était vraiment inaccessible, inopérationnel. Donc, plus rien ne fonctionnait. Donc, la première action, c'est vraiment d'isoler les sauvegardes, d'isoler les sites distants, de se dire, on va vraiment se focaliser sur un petit périmètre, s'assurer que cet acteur malveillant qui est potentiellement dans le réseau ne puisse plus nuire et qu'il n'ait plus accès à notre réseau. Par contre, on ne sait pas encore par où il est rentré ou en tout cas, qu'est-ce qu'il a réussi à ouvrir comme porte afin d'avoir un pied dans le système d'information. Mais ça, on le verra plus tard, ou en tout cas, on ira chercher l'information plus tard. Là, on doit vraiment, en premier temps, les premières heures, réisoler et puis protéger tout ce qui n'est pas encore touché. Donc, on passe aussi par cette phase d'investigation de, qu'est-ce qui a été touché, quel système, les bases de données, est-ce qu'elles ont été touchées, est-ce que le système informatique, l'ERP aussi, qui peut être hébergé chez un autre partenaire. Voilà, il y a toute cette phase, quand même, les premières heures qui va être hyper importante. Et puis, on va aller aussi appeler nos partenaires en fait, avec qui on a l'habitude de travailler pour tout de suite les mobiliser et leur dire qu'on a besoin d'eux pour pouvoir reconstruire. Alors, on va quand même y aller aussi par étapes. Hein. On ne reconstruit pas dès le lendemain, mais définir aussi cette stratégie de reconstruction. Qu'est-ce qu'on va choisir de remettre en place tel quel à partir de sauvegarde en faisant des restaurations? Est-ce qu'il y a des systèmes qu'on va réinstaller de zéro? Comme si on repartait de zéro, parce que parfois, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Et puis, on va aussi garder quand même quelques systèmes compromis, quelques systèmes chiffrés, et les envoyer à des personnes qui vont pouvoir faire la forensique et essayer de retrouver le malware, le virus, les différents éléments qui ont été utilisés par les attaquants pour pouvoir compromettre notre système d'information.
Et ces fameux attaquants, donc, il y a un moment... Ils vous contactent, c'est quoi? C'est un coup de téléphone? C'est un mail? Ils vous demandent quelque chose? Parce qu'ils font bien ça pour quelque chose? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des contacts avec eux? Et c'est quoi après la procédure qui est mise en place?
Alors, leur premier contact, c'est de laisser les fameux fichiers, pas forcément TXT ou en texte, mais des fichiers sur les différents postes de travail qu'ils ont réussi à chiffrer. Et tout simplement, dans le message, plutôt rédigé en anglais, « Hello Group Atlantique », on a eu un accès à votre système d'information, on a chiffré l'ensemble de vos données. Si vous voulez récupérer la clé de déchiffrement, allez sur ce lien, donc sur le réseau Tor, pour pouvoir avoir la suite des informations et la suite du processus. On avait une position plutôt ferme là-dessus, et en écoutant les différents acteurs de la sécurité, c'est qu'il ne faut pas payer, et donc il ne faut même pas aller chercher forcément l'information. Autant ne pas rentrer en contact avec eux. Par contre, on a fait appel à d'autres services, à différents partenaires, qui ont pu nous dire quelles données avaient pu être récupérées par les attaquants. et ce que ça pouvait représenter comme information pour qu'on puisse quand même, nous, derrière, faire les déclarations à la CNIL s'il y avait de la donnée à caractère personnel. Voilà. Tout ça, on a quand même réussi à savoir ce qui avait pu être exfiltré, parce qu'ils ont quand même réussi un petit peu à exfiltrer de la donnée. Mais on n'est jamais rentré en contact avec eux pour aller plus loin dans les... Pas forcément dans le deal, parce que c'est pas forcément non plus, on va pas dealer sur la somme qu'ils demandent, mais voilà, il valait mieux pas rentrer en contact avec eux et plutôt se concentrer sur la reconstruction et s'assurer qu'il n'ait plus un pied dans le système d'information pour pouvoir aussi repartir sereinement.
Et donc, il y a eu cette phase de reconstruction pour pouvoir, tu l'as dit, en période presque hivernale, avec une grosse activité côté chauffage, remettre en route et que l'entreprise puis Groupe Atlantique puisse repartir. C'est une phase qui a duré combien de temps à peu près?
Cette phase-là, je dirais 3 semaines, un petit peu moins de 3 semaines. Je pense que ouais, la première usine, elle a pu repartir aux alentours du 15 décembre. Et après, voilà, on a privilégié la partie France dans un premier temps. Et après, on a étendu la reconstruction aux autres usines du groupe. De mémoire, oui, 3 ans après, hein, fin décembre, on devait avoir retrouvé à peu près l'ensemble de nos usines et des services les plus critiques, les plus importants. Et ensuite, d'autres actions se sont passées sur le mois de janvier. Le mois de février, on a remis le VPN seulement le 1er février, par exemple. Donc, on a quand même attendu presque 2 mois avant que les collaborateurs puissent retourner en télétravail ou en tout cas se connecter à l'extérieur du groupe.
Et je suppose que quand vous remettez en route pas comme il était avant, parce que sinon, on a les mêmes risques. En même temps, vous faites évoluer votre système de sécurité. Alors, même si ce n'est pas une belle expérience, hein, globalement, je pense que tu n'as pas aimé être cyberattaqué. En termes intellectuels, c'est quand même c'est grandeur nature, quoi. Et ça a dû te faire passer un bond en avant dans ce qu'est ton métier aujourd'hui, je suppose, non?
Oui, complètement. Alors, il y a une phase... aujourd'hui, on trouve pas ça positif. Hein, c'est jamais positif, forcément, de se faire attaquer. Mais il faut quand même en tirer du positif, parce qu'effectivement, il y a des règles, parfois, qu'on n'arrive pas à appliquer parce que... le système ou le groupe a énormément grossi en plusieurs années et il est parfois compliqué de revenir en arrière sur une politique. Par exemple, pour donner un exemple, la plupart des collaborateurs étaient administrateurs de leur poste de travail. Et donc, sur 5 000 utilisateurs, il est compliqué du jour au lendemain de leur dire « Bon, à partir de demain, tu n'auras plus accès à... enfin, tu n'auras plus le droit d'installer tout ce que tu veux. Il faudra faire appel au support. » Les équipes support, elles n'étaient pas forcément non plus assez staffées en collaborateurs pour pouvoir absorber cette charge. Or là, après une cyberattaque, en fait, on n'a pas le choix. C'est le minimum à appliquer. Donc là, on y voit aussi quand même des effets positifs dans notre position et dans la maturité de notre sécurité. C'est que ça a quand même aidé à remettre en place des politiques pour lesquelles on avait un peu de mal à revenir en arrière parce que voilà, ce grossissement et... le nombre de personnes, de postes de travail qui ont été installés au fil des années, qui était assez important. Et bon, il y a quand même aussi une partie peut-être psychologique, hein, parfois. Alors moi, je sais que je l'ai vécu quand même de façon assez traumatisante, au moins les premiers jours, premières semaines, parce que oui, ça reste mon outil de travail. J'ai fait des formations là-dedans, donc c'est encore plus compliqué de se dire « Merde, ça nous arrivait à nous ». Alors, c'est la faute de personne, hein, voilà, on ne sait pas. Mais quand même, oui, les premiers jours, on perd un peu le contrôle. On a accès à notre poste de travail, mais on ne peut pas mettre d'accès à Internet, sinon tous nos fichiers vont être synchronisés avec le OneDrive. Et donc, voilà, tout sera chiffré. On ne sait pas ce qu'il a pu faire sur notre poste de travail. Je ne vais pas non plus dire que c'est l'intimité qui a été violée, mais quand même, hein, c'est notre travail. Donc oui, au début, ça fait un peu... c'est un peu particulier, voilà. Mais avec du recul, voilà, on ressort quand même avec des forces. Voilà, on peut mettre en place des nouvelles politiques, des stratégies qui permettent de s'endurcir et voilà, d'améliorer notre niveau de sécurité. Et puis surtout, on arrive à sensibiliser la haute direction pour pouvoir mettre en place des projets, des nouvelles politiques et, voilà, et améliorer tous ensemble le niveau de sécurité du système d'information.
Et est-ce que pour être vraiment sûr d'avoir tout sécurisé et d'être un peu mieux préparé à une éventuelle prochaine cyberattaque, vous êtes allé jusqu'à comprendre comment ils ont pu pénétrer votre système? Est-ce que vous l'avez découvert pour que vous puissiez vous dire demain, c'est plus possible? Alors, On sait que dans l'imagination des voleurs et des tricheurs, ils sont toujours très créatifs et demain, ils trouveront peut-être autre chose. Mais est-ce que là, vous savez comment ils ont fait et du coup, bah, vous avez mis en place les mesures correctives qu'il fallait pour que, au moins par cette voie-là, ça ne se reproduise plus?
Non, on ne sait pas. On a envoyé donc plusieurs systèmes qui étaient chiffrés avec voilà, pas mal d'informations à différentes équipes pour pouvoir faire cette analyse forensique, essayer de remonter soit au patient zéro, soit à la porte d'entrée. Mais malheureusement, voilà, on a tellement un système qui est très élargi, hyper connecté entre nos sites. Ça a été compliqué de remonter au patient zéro. Par contre, dans notre dialogue, on part plutôt sur un phishing. Voilà, c'est ce qui peut arriver quand même à 95% du temps. Donc, on dit que bah, nous, ça peut être ça aussi, c'est un phishing. Et un collaborateur, en ayant les droits sur son poste de travail, à cliquer sur un lien, à rentrer soit ses identifiants, soit à télécharger cet outil malveillant qui a pu après se répandre sur l'ensemble du système parce que on est très connecté et donc ça a facilité à l'attaquant cette reconnaissance du système d'information et le fait de pouvoir étendre son virus, son malware sur l'ensemble des équipements du groupe.
Tu le disais, au début de la cyberattaque, vous ne voyez pas que c'est une cyberattaque. Hein, il y a la boucle réseau qui est peut-être là, vous allez chercher de ce côté-là. Est-ce que ça veut dire demain que dans la politique que vous avez mise en place aujourd'hui, il y a des freins qui sont beaucoup plus rapides et quand il y a cette alerte-là, ça veut dire qu'il y a des choses qui se stoppent plus rapidement parce que vous avez déjà vécu ça et qu'aujourd'hui, vous avez vu que quand il y a ce type de comportement qui se passe dans l'antivirus, dans la boucle réseau, etc., possiblement, ça veut dire qu'il y a une cyberattaque qui se prépare ou qui est là. Et du coup, vous avez des nouvelles procédures qui bloquent peut-être tout plus vite pour éviter que ça se répande partout ailleurs.
Oui, et puis surtout, on a déployé un EDR, donc ce qu'on n'avait pas avant 2020. Donc déjà, j'imagine que cet EDR permettra une meilleure réponse en cas de détection d'éléments malveillants ou en tout cas d'exécution de code arbitraire ou peu importe, que sais-je, qui soit semblable en tout cas à un malware ou un virus. Je pense que l'EDR prendra aussi des actions beaucoup plus rapides qu'un simple antivirus. Et tout de même, on s'est durci, il y a pas mal de choses qui ont quand même évolué. Régulièrement, on fait faire des pentests par des agences. Donc tous les ans quand même, voire peut-être même tous les mois, on s'améliore, on s'endurcit. Et s'il doit y avoir une nouvelle cyberattaque, j'espère que déjà, ça sera plus compliqué pour eux de rentrer et qu'on a forcément des meilleures barrières. Donc, on devrait les arrêter quand même plus vite afin que la propagation, elle ne soit pas aussi importante.
Et aujourd'hui, est-ce que c'est un peu ce jeu, on pourrait dire, du gendarme et du voleur qui t'intéresse dans ton métier de RSSI, de se dire, je fais en sorte que ma forteresse soit imprenable, que les collaborateurs puissent travailler en toute sécurité? C'est quoi le truc qui te passionne aujourd'hui, toi, dans ton métier, Lucie?
Ça aide de sensibiliser quand même, de faire comprendre aux collaborateurs leur rôle aussi qu'ils ont à jouer. On a beau être une équipe cyber, il y a plusieurs RSSI au sein du groupe. On n'est pas les seuls garants de cette sécurité. Et donc, notre rôle, ça va être quand même effectivement de mettre en place des procédures, de faire des projets pour pouvoir améliorer notre système d'information. Mais le rôle clé, finalement, c'est aussi l'humain. Et donc, en tout cas, moi, mon rôle, c'est de montrer aux collaborateurs que chacun de nous, peu importe le métier qu'on peut avoir au sein du groupe, est important et a vraiment un rôle à jouer dans la sécurité du SI, afin qu'on puisse, tous les jours, chaque jour, s'améliorer, ne pas ramasser une clé USB par terre, verrouiller son poste de travail. Pour tous mes collègues nantais, si le poste n'est pas verrouillé, j'ai le droit au petit-déj. Donc bon, ça marche une fois, deux fois, et après c'est quand même le portefeuille qui en prend un coup. Dans le train, ne pas discuter à voix haute avec ses collègues, demander à ses équipes informatiques de mettre des filtres de confidentialité sur le poste de travail quand on est amené à se déplacer. C'est tout ça, quoi. Toutes ces petites choses que je peux essayer de leur apporter au quotidien, ben ça me, ouais, ça, c'est mon rôle, et en tout cas, j'ai envie que chacun de mes collaborateurs ait les bases de la sécurité et comprenne leur rôle à jouer dans notre sécurité à nous pour l'entreprise et que finalement, chacun de nous a son rôle.
Je crois que c'est une une belle conclusion de dire que la sécurité, la cybersécurité est l'affaire de tous et qu'un petit trou peut faire des dégâts considérables et qu'on est tous concernés, d'autant plus qu'aujourd'hui, ben, on est connecté par les montres, par les téléphones, par les ordinateurs, de partout. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit au quotidien et dans tous les domaines. Et voilà, je pense que tu as bien fait passer le message. En tout cas, merci Lucie pour ce partage d'expérience qui est extraordinaire. Merci à toi.
Merci à toi aussi. Merci à l'ENI pour cette invitation.
Et je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui seront intéressés de t'écouter, d'avoir compris tout ce phénomène qui s'est passé lors de la cyberattaque et de ton rôle, toi, en tant que RSSI, mais également ton rôle à la fois technique, mais aussi de porter la bonne parole. Et à tous les auditeurs, bien entendu, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode d'Horizon Tech by ENI.